Les nuits de France Culture.
Dans le langage courant, le mot apocalypse sert à signifier la fin des temps, ou parfois plus prosaïquement, un événement catastrophique. On l'emploie également sous forme d'adjectif, décrivant une scène comme apocalyptique, pour appuyer sur le chaos et le tragique d'une situation donnée. Pourtant, l'apocalypse est avant tout un genre littéraire, qui a pour fondement une vision divine délivrée à l'homme, par un être ou une puissance transcendante, qui vient lui annoncer la fin du monde, et parfois le début d'un monde nouveau. Le mot apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie le dévoilement, qu'un voile se lève pour révéler le cosmos sacré. Loin donc de la connotation exclusivement négative qu'on lui connaît, l'apocalypse est un genre littéraire riche, à vocation eschatologique, comme l'explique ce premier de deux numéros du Monde religieux consacré justement à l'apocalypse. C'est le cardinal Jean Danielou qui vient éclaircir ce terme dont la valeur sémantique a été corrompue au fil des siècles, au micro de Paul Le Sourd, dans une émission diffusée pour la première fois le 7 septembre 1971.
Madame Marie Choisy a organisé une journée consacrée à l'Apocalypse. Son éminence, le cardinal Danielou, a bien voulu y prendre part.
L'Apocalypse, tout en étant situé historiquement, est en même temps une dimension constante de la perspective humaine. Elle est quelque chose de différent de la philosophie, quelque chose de différent de la mystique. Elle représente une certaine recherche de la signification du temps. Déjà dans l'Ancien Testament, l'idée que le monde a une fin, qu'il y a une fin des temps, une teleia ton aionon, est une donnée absolument fondamentale. Le christianisme ajoutera à cette donnée ce qui est, à mon avis, constitutif du christianisme en face du judaïsme, c'est l'affirmation absolument paradoxale que la fin des temps est déjà arrivée. Je voudrais, à titre alors de contribution personnelle, et en parlant ici en historien des origines chrétiennes et en particulier du judéo-christianisme, dire quelque chose pour préciser alors certaines notions de ce qu'a été historiquement l'apparition de l'apocalyptique. Il est évident que le mot apocalyptique se rattache à un certain contexte historique. Ce que je voudrais, c'est très brièvement rappeler ce que signifie dans ce contexte originel le mot apocalyptique, évoquer quelques-unes des grandes apocalypses, car comme vous le savez, l'apocalypse est un genre littéraire dont nous possédons aujourd'hui peut-être 60 ou 80 exemplaires, c'est-à-dire qu'on écrivait à l'époque de Jésus-Christ des apocalypses comme aujourd'hui on écrit des romans. C'est-à-dire que c'était une attitude qui, loin d'être restreinte à l'apocalypse de Jean, était tout à fait commune. Et enfin, dire un mot du contexte existentiel de l'apocalypse, c'est-à-dire que l'apocalypse est essentiellement la pensée des temps malheureux. D'abord, que signifie le mot même d'apocalypse ? Ici, il faut être extrêmement concret. Apocalypsis en grec, révélatio en latin, c'est exactement le même mot, signifie qu'on écarte un voile. C'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est essentiellement le dévoilement du cosmos sacré et de l'espace sacré et du temps sacré. Quand Jean, au début de l'Apocalypse, nous parle, il dit qu'il voit précisément le ciel s'ouvrir. Et cette expression « le ciel s'ouvre » est une expression capitale dans toutes les Apocalypses. Le ciel s'ouvre et on voit ce qu'il y a derrière cette espèce de firmament bleu qui est un voile. Alors ceci, on peut le voir de deux manières. Jean, lui, reste à sa place, mais le voile s'entr'ouvrant, il voit ce qu'il y a au-dessus. Et il le décrit avec une précision très grande, c'est le trône de Dieu. Et ce trône de Dieu se trouve sur un océan de cristal, c'est le ciel vu de l'autre côté. Ou bien ce qui arrive aussi, c'est que très souvent, alors un ange Gabriel, mais Uriel, car vous savez qu'il y a cet archange et que l'Apocalypse est la grande source pour la connaissance des noms des anges, vient chercher le voyant et lui fait faire un voyage, une ascension. Et c'est ainsi que nous possédons des ascensions, une ascension de Moïse, une ascension d'Abraham, une ascension d'Isaïe, au cours desquelles, eh bien, il voit tout, c'est-à-dire qu'il circule dans les sept cieux et qu'il voit tous les habitants qu'il y a dans ces sept cieux. L'Apocalypse d'Enoch, à cet égard-là, est un roman véritablement passionnant où on va au troisième ciel, au paradis, où on voit l'arbre de vie, où on se lève dans les cieux successifs où sont les habitats des différentes catégories angéliques. Il y a également, bien entendu, le cosmos sacré d'en dessous, n'est-ce pas ? L'enfer est plus bas, le grand abîme où, nous dit l'Apocalypse, Satan sera jeté à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a une vision totale de ce cosmos sacré où tous les habitats ont une signification religieuse et où ce que nous appelons la terre est le lieu assez misérable de l'homme déchu, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout là dans son habitat véritable qui sera le paradis, mais qui est une existence où il partage la vie du monde animal et où il est soumis à ce qui constitue les phénomènes de cette existence terrestre, à savoir la maladie, la mort et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qui est plus fondamental, c'est que quand le voyant monte dans les livres célestes, on lui montre les livres célestes. Les livres célestes sont une catégorie absolument capitale. Il y a trois ordres de livres célestes. Il y a le livre de vie. Alors, le livre de vie, primitivement, c'est que quand vous naissez, on vous inscrit sur le livre de vie, et quand vous mourrez, on vous efface. Mais ceci est transposé dans l'Apocalypse de Jean par le fait que ce n'est pas pour cette vie qu'on est inscrit, mais pour la vie véritable. Et le Christ dit aux apôtres, ne savez-vous pas que vous serez inscrits sur le livre de vie, c'est-à-dire sur la vie éternelle. Il y a deuxièmement le livre du jugement, c'est, je dirais, le plus inquiétant. C'est celui où les anges marquent perpétuellement l'actif et le passif de chacune de nos journées et où, suivant l'équilibre des deux colonnes, nous passerons un moment désagréable au jour du jugement. Le troisième livre, et celui qui nous intéresse le plus, c'est le livre du destin. Et alors ici, nous rencontrons une idée qui est capitale pour l'apocalyptique du point de vue de la relation de l'apocalyptique et de l'histoire. Et cette idée est que tout est inscrit à l'avance dans le dessein de Dieu, ou plus exactement, qu'il y a un dessein de Dieu préexistant. Cette idée qui sera reprise par l'apôtre Paul, quand il dira « Je vous annonce un mystère », qui a été inconnu jusqu'ici, mais que j'ai mission de vous révéler, c'est le secret que de toute éternité Dieu a voulu faire de nous ses fils. Cette idée est l'idée essentielle de l'apocalyptique. Et c'est ainsi que les grandes apocalypses, l'Apocalypse, le livre, ce qu'on appelle le livre d'Enoch, et qui est en réalité un ensemble de quatre traités appartenant à une certaine époque, l'Apocalypse de Moïse, le quatrième Esdras, qui est contemporain de saint Paul, que nous pouvons à peu près situer, le livre de Baruch, qui vient d'être édité dans la collection Sources chrétiennes, l'Apocalypse syriaque de Baruch, et également, car il faut le dire ici, les Apocalypses que nous venons de retrouver à Qumran, la littérature qui était celle de ces Esséniens de Qumran, qui sont contemporains du Christ et qui constituent le lieu existentiel de l'Apocalypse. Alors, de ce point de vue, il y a donc une apocalyptique juive, mais cette apocalyptique a été reprise par les chrétiens en la marquant de leur philosophie propre de l'histoire. Et l'une des plus passionnantes apocalyptiques est l'ascension d'Isaïe, où nous voyons le voyant monter à travers tous les cieux, voir la descente du Verbe à travers les sept cieux et la remontée du Verbe à travers les sept cieux. D'ailleurs, l'Apocalypse a profondément marqué l'iconographie chrétienne. Il n'y a qu'à voir comment les artistes du Moyen-Âge ont eu pour l'Apocalypse une espèce de prédilection. Vous voyez le portail de Saint-Benoît, parce que l'Apocalypse, à l'inverse de la théologie, est un trésor incomparable d'icônes, n'est-ce pas ? L'Apocalypse est le lieu même de l'imagination chrétienne, parce que c'est très essentiel, et son caractère symbolique. Je dirais, ce qui déprécie l'Apocalypse, c'est d'une part de voir en elle des spéculations fantastiques. Et il y a du fantastique dans l'apocalyptique. Il y a aussi le contraire, qui est de chercher à l'apocalyptique des applications concrètes trop précises. Et de considérer que dès qu'il y a une épidémie de grippe, ceci est un signe de l'approche de la fin des temps. Car ceci se passe depuis les environs de 500 avant Jésus-Christ, ceci vers l'an 1000. Et on comprend que, étant donné le système des 7 millénaires, qui est tout ce qu'il y a de plus apocalyptique, les approches de l'an 1000 aient suscité un courant d'angoisse apocalyptique en vertu du schéma qui était celui-ci. Il y a eu les 6 millénaires qui précèdent le Christ. L'Église représente le 7e millénaire, et donc l'an 1000 est la date de la fin des temps. Le calcul est absolument démonstratif. Mais ce qui fait le sérieux de l'Apocalypse, c'est que c'est essentiellement un message adressé à un peuple malheureux. Et ici, il faut donner à l'Apocalypse son contexte politico-religieux. On ne comprend rien à l'apocalyptique si on ne comprend que l'Apocalypse est né dans une Palestine occupée par l'étranger et par le païen. Et païen est ici aussi important qu'étranger. Et que donc la Terre Sainte était ainsi occupée et donc souillée, profanée rituellement par la présence païenne. C'est-à-dire que l'Apocalypse est un refus d'un certain état des choses, mais qui attend la modification de cet état des choses, non d'une action politique violente, mais essentiellement de l'intervention libératrice de Dieu. Et ces hommes vivaient dans l'attente de l'imminence de cette intervention. Et c'est ici qu'il faut dire qu'un des aspects de l'apocalyptique, en dehors de laquelle on ne la comprend pas, est l'aspect de l'imminence. Mais c'est ce qui explique aussi que l'apocalypse reparaît toujours dans des situations dramatiques. On ne fait pas d'apocalypse quand les choses vont bien, mais dès qu'un peuple se trouve en effet dans certaines conditions tragiques, eh bien cette perspective apocalyptique, c'est-à-dire le sentiment justement d'une sorte de situation sans issue, et l'idée que sorte une espèce de bouleversement total et d'irruption divine peut modifier cette situation sans issue, intervient. Enfin, je voudrais en terminant dire que justement, une préoccupation de l'exégèse moderne a été de démythiser, peut-on dire, l'apocalyptique pour en retenir ce qui paraissait encore aujourd'hui un message réel. Par conséquent, ce qui est à démythiser ne relève pas de cette interprétation de l'histoire comme ayant un sens, mais relèverait alors de certaines imageries, comme le fait que le Fils de l'homme revienne au son des trompettes. Et il y a une affirmation fondamentale de l'apocalyptique qui est d'affirmer qu'il y a une fin des temps, un jugement de Dieu, un retour du Fils de l'homme, qui me paraît à moi, alors, comme étant un message qui reste toujours valable et qui est l'expression de ce qu'est alors la conception chrétienne de l'apocalyptique.
Voici notre petit bloc-notes. Monsieur Claude Trémontant, qui est un théologien très en vogue, dont nous avons déjà signalé quelques ouvrages importants, publie au Seuil une étude sur le problème de l'âme. C'est un essai métaphysique, portant sur la question de l'âme en tant que substance et sur les problèmes de son immortalité. Il commence par un exposé historique et dans une seconde partie examine ce que l'on peut penser du problème de l'immortalité de l'âme et de celui de la résurrection, ouvrage très captivant. Que devient-on après la mort? Quelles relations peuvent alors exister entre les morts et les vivants? Angoissantes questions auxquelles certains médiums répondent par des manifestations curieuses. C'est ainsi que Rosemary Brown, qui prétend que depuis l'âge de 7 ans, elle est en communication avec les morts, publie aux productions de Paris sous le titre « En communication avec l'au-delà » ses rencontres avec Chopin, Liszt, Schubert, Berlioz, etc. Les grands musiciens lui auraient même dicté des morceaux.
C'était le premier de deux numéros du Monde religieux consacré à l'Apocalypse, avec le cardinal Jean Danielou au micro du professeur Le Sourd, dans une émission diffusée pour la première fois le 7 septembre 1971.